Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Alain Corbin.
Bonjour.
Historien des sensibilités, vous nous avez entraîné déjà dans l'histoire de l'odorat, le miasme et la jonquille, du corps, des plaisirs sexuels, des arbres, de l'herbe, des cloches et du silence. Votre histoire du silence a fait du bruit il y a 4 ans. Et vous nous livrez une passionnante histoire de l'ignorance chez Albin Michel. Terra Incognita, c'est le titre. Autrement dit, tout ce que nos ancêtres du 19e siècle ne savaient pas de la Terre, des océans, des pôles ou des volcans. Et c'est vertigineux parce que tout ou à peu près tout était considéré comme mystérieux et terrifiant.
Oui, et c'est un message aux historiens et aux amateurs d'histoire, c'est que en fait, on ne pense jamais à ça quand on rencontre quelqu'un, puisque l'histoire est un voyage, on va vers des gens qu'on ne connaît pas, on oublie qu'ils avaient très très peu de choses sur certains domaines. Donc on oublie ce qu'ils ne savaient pas, on oublie l'ignorance. Quand on lit Balzac, par exemple, ou même Zola, on ne pense pas que ces gens ignoraient l'âge de la Terre, les pôles, la circulation atmosphérique, que sais-je, vous voyez. On pense qu'ils savaient ce qu'on sait. Ouais. Et c'est une grave erreur.
Terrifiant et mystérieux, disais-je, avec de grandes catastrophes naturelles qui étaient alors totalement inexpliquées. Le séisme de Lisbonne en 1755 qui a fait quelques 10 000 morts et dévasté ce qui était alors le troisième port européen. Mais aussi, et ça c'est fascinant, ce voile d'obscurité, ce brouillard sec qui a pendant 2 ans et demi enveloppé l'Europe et l'Amérique du Nord entre 1815 et 1818. Beaucoup ont pensé que c'était la fin du monde, le jugement dernier, alors que c'était, on l'a su beaucoup plus tard,
l'éruption du Tambora en 1815, qui a eu ses effets en 1617 surtout. C'est la plus grande éruption volcanique du millénaire.
Ouais. Si volcan indonésien. Ouais.
Si ça se produisait aujourd'hui, il n'y aurait plus de navigation aérienne pendant au moins 2 ans. Turner, pardon. Le peintre Turner. Oui. On a longtemps admiré, mais moi-même, certaines de ses peintures de ces années-là, dont vous parlez, parce qu'il y avait un marron qui était très caractéristique des tableaux de Turner, et on s'extasiait, quelle imagination, etc. Mais non, en fait, maintenant, on sait qu'à ce moment, Turner ne faisait que peindre ce qu'il voyait, qui était effectivement totalement marron.
Un ciel rendu opaque par les fumées du volcan indonésien.
Les brouillards secs.
Le brouillard sec.
Mais des choses aussi simples, par exemple, que l'âge de la Terre. Au XVIIe siècle, Bossuet, qui est très grand auteur, pensait que la Terre avait 6000 ans.
Ouais.
Vous vous rendez compte? On perd de vue l'idée que ces gens n'avaient aucune idée de l'âge réel de la Terre.
Ouais.
Et ils ne connaissaient pas les pôles, ils ne connaissaient pas la circulation atmosphérique, il y a beaucoup de choses. Hein, enfin.
Alors les pôles, justement, grand mystère jusqu'à la fin du 19e siècle,
oui.
Avec l'idée dominante chez les savants et les écrivains qu'il y avait une mer polaire, une mer libre de glace.
Alors là, c'était discuté, mais effectivement, dans les années 60-70, c'était majoritairement l'idée. Hein. Lorsque Jules Verne écrit les aventures du capitaine de la Terrasse, bon, il décrit très longuement la mer polaire. Hein. Les pôles ont fasciné du 16e à 1910, disons, grosso modo, parce que les hommes avaient le désir de les atteindre, d'y parvenir, et personne ne réussissait. Personne n'a réussi avant le 20e siècle.
Ouais.
20e siècle. Ce qui, est pour nous, peut paraître très étonnant. Donc, tous ces auteurs que j'ai évoqués du 18e, 19e siècle, ignorait totalement les pôles.
Même l'évolution du temps qu'il fait était un mystère. Vous rendez justice d'ailleurs à un pionnier de la météorologie, celui qui le premier a reconnu et nommé les nuages, un quaker britannique du nom de Luck Howard.
Ouais, c'est 1802, hein, Howard. Ouais. Auparavant, on s'imaginait, on regardait les nuages, on levait la tête, on y voyait des tours, des combats d'animaux, des tigres, etc. C'était ça, les nuages.
On pensait que les nuages pouvaient prendre n'importe quelle forme.
N'importe quelle forme. Mmh. Alors, la météorologie, c'est très important, parce qu'en 1800, on ne percevait pas encore bien l'origine lointaine des choses, en quelque sorte. Hein. Ce sont toute une pléiade de savants, météorologues, qui, peu à peu, au cours du 19e siècle, ont compris la circulation atmosphérique. Les notions de cyclone, anticyclone, dépression, bourrasque, etc., ça date du milieu du 19e siècle. Mais auparavant, on ne comprenait rien à cette circulation. Évidemment, on éprouvait les tempêtes. On connaissait les tempêtes depuis Homère, mais au-delà, en deçà même. Mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas la circulation des masses atmosphériques.
Alors, dans le mouvement de découverte et de recul de l'ignorance que vous décrivez, Alain Corbin, à la fin du 19e siècle, il y a un nom qui revient très souvent. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est un grand auteur qui a joué un rôle considérable dans la diffusion des connaissances. C'est Jules Verne.
Ah, bah oui, Jules Verne, alors là, moi je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai lu une cinquantaine de Jules Verne. Songez par exemple que Jules Verne a consacré 7 de ses romans aux glaces, oui, qu'on connaissait très mal. Non, Jules Verne est prodigieux dans le domaine de la vulgarisation. Oui. Et puis c'est quelqu'un qui ne vulgarisait pas uniquement par l'imagination, parce que l'ignorance stimule l'imagination.
Absolument.
L'ignorance permet le rêve, permet. Bon, oui. Mais Jules Verne était. Il lisait. Je pense au grand météorologue Marié Davy, à qui on doit la notion de dépression. C'était dans sa bibliothèque.
Absolument. Les abysses, évidemment, dans 20 000 lieues sous les mers, et puis dans l'île mystérieuse qui vous a fasciné, adolescent, comme beaucoup d'adolescents. Il y a à la fois les airs, les océans, un volcan, et puis les abysses à nouveau, puisque le capitaine Nemo attend quelque part avec son Nautilus, oui, mais vous caché dans l'île mystérieuse.
Vous avez raison d'évoquer les abysses, parce que c'était la plus ignoré de tous les éléments de la Terre. Les profondeurs marines étaient totalement ignorées avant les deux ou trois dernières décennies du 19e. Mais c'était...
Les savants se disputaient pour savoir si c'était calme ou si c'était la tempête.
Hein. Et si c'était vraiment insondable. Ils se disputaient aussi pour savoir si vraiment il pouvait y avoir de la vie. Ouais. C'était sombre, c'était noir. On ne voyait rien, on pouvait juste sonder, c'est-à-dire voir les profondeurs. Cela jusqu'à la fin du 19e. Mais à la fin du 19e, il y a un progrès quand même qui est lié à la pose des câbles téléphoniques, télégraphiques, transocéaniques. Il y a eu des centaines de milliers de kilomètres de câbles posés. Ça a été l'occasion d'explorer un petit peu, pas très loin, certaines profondeurs et de remarquer certaines espèces marines. Mais alors, si vous songez à la façon dont nous sommes abreuvés, nous, par la télévision, de visions d'animaux invraisemblables, d'ailleurs, sous-marins, vous pouvez mesurer la distance et, à mon sens, l'importance de connaître l'ignorance.
Cette histoire de l'ignorance nous en apprend beaucoup. Terra Incognita paraît chez Albin Michel. Merci beaucoup, Alain Corbin, d'être venu nous en parler.
Merci. Europe 1.